Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passagers nouveaux. Votre compagnie jusqu'à 14h ce dimanche 15 septembre. Et voilà le menu. On va commencer par les pensions de retraite. Effectivement, augmentation de la retraite minimale, assurance retraite lance la seconde vague des paiements. On parlera également de la 30e édition des Pyramides des Chaussures le 21 septembre à Paris et à Lyon, organisée par Handicap International. Manifeste, nouveau regard sur l'esclavage colonial, une exposition d'art digital qui va être connue au public pour avoir à partir du 19 septembre à Nantes. Et on parlera également d'un livre, Mémoire de la dictature, société, immigration, résistance, qui a été fait à partir des photos de Fernando Mariano Cardeira. On parlera également de l'édition 2024 du Gala de l'association Cap Magellan. Les inscriptions sont ouvertes pour les prix. Et on parlera également d'un centenaire de naissance du compositeur Gabriel Fauré, sans oublier la gastronomie, Porto recettes et lieux emblématiques. Mais déjà et avant tout, Monsieur Philippe Bainville, bonjour.
Bonjour.
Alors, réforme des retraites, augmentation de la retraite minimale, donc l'assurance retraite à partir de demain, 16, lance la seconde vague de paiement. Peut-être en résumé pour nos auditeurs, cette augmentation de la retraite minimale s'adresse à qui ?
Non, ça va s'adresser aux retraités qui ont eu une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, les gens qui sont partis qui avaient tous les trimestres, ou qui avaient attendu l'âge du taux plein, ou qui sont partis au titre de l'inaptitude, donc une retraite à taux plein, au moins 120 trimestres cotisés, donc au moins 30 années de cotisation. Si vous remplissez ces deux conditions-là, vous êtes éligible à cette aide exceptionnelle qui est mise en place. Et puis après, selon le montant de votre retraite du régime de base et selon l'ensemble des retraites, puisque vous avez une retraite complémentaire, vous allez pouvoir avoir soit une majoration qui va être réduite, soit peut-être si vous dépassez les plafonds, vous n'y aurez pas droit. Et là, c'est la seconde vague de paiement, puisque en septembre 2023, on avait déjà mis en paiement 600 000 retraites, 600 000 majorations en plus pour les retraités concernés. Et là, on va mettre en paiement 850 000 majorations en plus. Et les courriers vont partir demain pour avertir les gens qui sont, pour prévenir les gens qui sont concernés.
Alors, ce paiement, apparemment, a un effet rétroactif au 1er septembre 2023.
Oui, c'est ça. La réforme, ce coup de pouce pour les personnes qui ont eu de longues carrières cotisées et qui ont de petites retraites, il a un point de départ au 1er septembre 2023. Pour nos retraités, parfois les plus anciens, il y avait un travail de reconstruction de carrière qui était un peu difficile. Et donc la loi laissait au régime de retraite un an pour faire ce travail, ce qu'on vient de terminer. Et donc en effet, les personnes qui sont éligibles vont dans un premier temps, fin septembre, toucher un rappel. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez droit à une majoration de 40 euros en plus par mois, on va vous payer 12 fois 40, donc 480 euros à la fin du mois de septembre. Et vous recevrez prochainement le courrier qui vous avertit. Et à partir de la retraite que vous paierez que vous toucherez normalement le 9 octobre, vous aurez ces 40 euros en plus, comme ça tous les mois qui s'ajouteront à votre retraite. Mais là, on doit bien, pour plus de 800 000 personnes, un an, de majoration à payer.
Alors, monsieur Bainville, ça n'empêche qu'il y a un seuil. Qu'est-ce qu'on considère retraite minimale ? Bon, je dis, la retraite, l'assurance retraite, incluant cette augmentation, ne peut pas dépasser 847,57 € par mois.
C'est ça. Si votre retraite de base, donc celle qui vous est payée par le régime général, si vous avez été salarié ou travailleur indépendant, le montant brut ne doit déjà pas dépasser les 847 euros. Donc, en effet, il y a des personnes qui ont des petites retraites et qui malheureusement vont être soit juste au-dessus, soit avoir des montants inférieurs à ce montant-là, mais par contre ne rempliront pas une des conditions exposées tout à l'heure, les trimestres cotisés et le taux plein. Donc c'est vraiment, en tout, on paye à peu près 1 400 000 personnes. Sur nos 15 millions de retraités, c'est un peu moins de 10% de la population des retraités du régime général qui est concernée. Mais une des conditions, c'est vrai, si vous avez une retraite du régime général qui est au-dessus de 847 euros brut, de toute façon, vous n'aurez pas droit à ce coup de pouce.
Et en même temps, c'est-à-dire, il faut tenir compte aussi de ce qu'on appelle les retraites complémentaires.
Oui, les retraites complémentaires ou les autres retraites que vous pourriez percevoir d'un régime obligatoire français ou étranger, l'ensemble de vos retraites, une fois qu'on a ajouté cette majoration, ne peut pas dépasser un plafond fixé à environ 1352 euros bruts. Donc, c'est vraiment un dispositif, je le concède, un peu complexe, pour pas dire très complexe. C'est pour ça que le choix qui a été fait, c'était logique, c'était de dire vous n'avez aucune démarche à faire, on va prendre notre temps, mais on va bien faire tourner nos machines, on sait exactement qui est concerné, et si vous êtes concerné, vous recevrez le courrier, vous recevez le paiement, mais vous n'avez rien à faire.
Alors, Monsieur Philippe m'invite, bien entendu, bon, vous y êtes pour rien, les fonctionnaires de l'assurance retraite non plus, mais ça, bon, c'est comme ça que la loi a été votée. Alors, si on a le malheur, entre guillemets, parce qu'avec 850 euros, par exemple, par mois, bon, on a du mal à vivre, c'est-à-dire, si on dépasse d'un malheureux euro, 1 ou 2 euros, ça veut dire que, bon, on n'a de droit à rien.
Oui, c'est le principe de toutes les prestations qui sont soumises à condition avec un plafond. Mmh. C'est vrai que voilà, il y a cet effet de seuil qui fait qu'en effet, si vous dépassez le plafond, vous n'avez pas le droit à ce coup de pouce. Il fallait faire un choix. Les pouvoirs publics ont fait ce choix-là. Il n'y avait pas d'obligation. On peut se dire que c'est pas assez. On peut se dire que c'est déjà ça. Nous, en tant qu'opérateurs, on met en musique les règles. Et en effet, on aura un travail probablement à faire d'explication. Et peut-être que parmi les auditeurs, on a des retraités qui nous écoutent, qui ont déjà touché depuis septembre 2023. Ils ont probablement eu une petite augmentation de 20, 30, 40, 50, 60 euros. Ils ont déjà eu et elle se répète tous les mois. Donc en effet, il y a peut-être des gens qui en plus pensent qu'ils vont être concernés, mais qui ont déjà bénéficié de ce petit coup de pouce en septembre 2023.
Alors, faut dire que donc ce remboursement, entre guillemets, je mets ça, en réalité, c'est une augmentation de la retraite minimale, ne peut pas dépasser 1200 euros par an.
Alors voilà, la loi, elle détermine que cette majoration exceptionnelle, ça représente à peu près, pour ceux qui rempliraient toutes les conditions, ça ferait à peu près 100 euros bruts en plus par mois, d'où le 1200 euros. Et on sait que sur les 1 400 000 personnes, c'est quelques dizaines de milliers qui remplissent toutes les conditions pour avoir droit au maximum. Donc c'est pour ça que c'est du cas par cas et qu'on est obligé de regarder les carrières de chacun, combien de trimestres cotisés, quelle retraite de base, quelle retraite complémentaire, et que d'une personne à l'autre, on a peut-être deux personnes retraitées qui sont concernées, mais une qui touchera 15 euros en plus par mois et une qui touchera 60. On sait qu'en moyenne, sur l'ensemble des personnes concernées, ça fait 50 euros bruts. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en dessous et des gens qui sont au-dessus. Ça, c'est selon la situation de chacun.
Finalement, est-ce que bon, il y a une nouvelle réforme des retraites? C'était sur les rails, c'est le cas de le dire. Il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que la nouveau calcul des pensions de retraite, ça s'applique? Comment est-ce que... Ou est-ce que pour le moment on reste encore ce que c'était avant la loi?
Alors pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle réforme. Donc nous, opérateurs, on applique les règles telles qu'elles sont prévues dans la loi. Et donc on continue à accompagner, à conseiller toutes les personnes qui font appel à nous en fonction des règles actuelles. Et pour l'instant, en effet, on suit le calendrier qui était prévu avec des mesures qui... Parfois, pour certains, peuvent paraître un peu contraignantes. On augmente l'âge, on augmente la durée d'assurance. Et puis, parfois, avec des coups de pouce comme ça, l'augmentation de la retraite, le fait de s'ouvrir droit sous condition à une nouvelle retraite si on fait du cumul, la pension pour les orphelins. Voilà, il y a toutes ces nouvelles mesures qui, pour l'instant, se mettent en place. Aujourd'hui, il n'y a pas de changement au moment où on se parle.
Normalement, oui, tout à fait. Oui, bon, d'autant plus qu'on n'a pas de gouvernement, on a un premier ministre. Alors, question par rapport au cumul. Il y a des gens qui sont retraités, mais bon, étant donné qu'ils ont une petite retraite, ils ont un autre travail. Alors, ces gens-là, ils payent des cotisations. Est-ce qu'ils ont le droit à un petit plus, ça concerne la pension de retraite de base?
Alors, déjà, c'est une bonne chose de se dire que quand on est retraité, si on est un peu obligé, on peut reprendre. Après, c'est vrai que ça va dépendre du moment où on est parti à la retraite. Toujours pareil, il y a souvent, comme chez nous, deux cas de figure. Ou vous êtes parti à la retraite parce que vous aviez l'âge légal et tous les trimestres. Et là, vous faites ce que vous voulez avec qui vous voulez. Mmh. Soit vous êtes parti avant l'âge légal ou parce que vous n'aviez pas tous vos trimestres. Là, vous aurez un cumul qui est limité. Les gens qui font du cumul limité ont des règles à respecter, chacun voit après avec sa caisse, mais ces personnes-là ne s'ouvrent pas droit à de nouveaux droits à la retraite. Par contre, d'accord, ceux qui ont droit au cumul intégral, la réforme, elle permet, depuis 2023, sous condition, en effet, de s'ouvrir droit à une nouvelle retraite. Alors, ce sera une petite retraite, hein, il faut être clair. Vous voyez les montants quand on a travaillé 40 ans. Vous imaginez bien que si vous reprenez pendant 3-4 ans, mais ça fera un petit complément. Ce qu'on peut dire, c'est que il faut bien se renseigner et surtout, il faut penser à demander cette retraite, puisqu'en fait, nous, on n'aura pas l'information que vous avez repris une activité. Donc, il faudra bien, le moment venu, se rapprocher de nous.
Donc, mais, ça veut dire qu'il faut faire une démarche.
Il faut faire une démarche. Mmh. Quand vous cesserez votre nouvelle activité une fois retraité, oui, vous vous rapprochez de votre caisse de retraite pour savoir si vous remplissez les conditions ou pas pour avoir droit à une retraite. Et j'en profite juste, puisque c'est vrai que jusqu'à présent, cette nouvelle retraite n'existait pas. C'est quand même important que les gens qui travaillent cotisent, mmh, avant la retraite ou après la retraite, parce que ce sont les cotisations qui payent les retraites. C'est un système, ouais, solidaire. Et certes, jusqu'à présent, on cotisait pas pour soi, mais on cotisait pour le système. Et c'est quand même ça qui est important.
Oui, d'ailleurs, la retraite, c'est un salaire différé, comme on a l'habitude de dire. Alors, bien entendu, bon, ça se prépare, des retraites. Alors, une petite question, bon, je ne sais pas si vous avez une réponse ou pas, parce que je suis souvenu qu'à Radio Alpha, moi, je l'avais accompagné personnellement, les journées d'information, etc., etc., avec la caisse portugaise. Donc, je sais qu'il y a eu des centaines de nos auditeurs qui sont allés chez vous, justement pour contacter la caisse de retraite portugaise et après la retraite complémentaire, la retraite de base de la sécurité sociale, etc., etc. Est-ce que par rapport au Portugal, est-ce que c'est prévu des nouvelles journées ou pas?
Eh bien, c'est une très bonne nouvelle que du coup je donne en exclusivité.
Je vous écoute.
À Radio Alpha. En effet, alors c'est presque calé. Alors j'ai pas encore complètement les dates, mais courant 2025. D'accord. En effet, nous allons organiser à nouveau à Paris les journées d'information retraite franco-portugaise, où en effet toutes les personnes sur inscription pourront gratuitement, et c'est important de rappeler que tous les services sont gratuits, pourront rencontrer les différents conseillers retraite français, base et complémentaire, et nos collègues de la caisse portugaise qui seront présents aussi. Et c'est vraiment un moment privilégié pour mettre à plat sa situation, poser toutes ses carrières et profiter que les différentes caisses soient là pour anticiper, parce que c'est vraiment le maître mot de notre stratégie, c'est anticiper avec nous pour faciliter le départ, le moment venu. Donc on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, mais voilà, courant 2025 probablement. Plutôt deuxième semestre 2025, nous allons en effet organiser les journées d'information retraite franco-portugaise.
Voilà, et l'intéressant, c'est qu'une fois qu'on s'inscrit, automatiquement l'info va arriver au Portugal, et quand les fonctionnaires de la retraite portugaise viennent ici, ils ont déjà tout ce qu'il faut.
Oui, les collègues de la... c'est la CNP, hein, il me semble, la caisse portugaise qui se déplace à Marine. En effet, ils arrivent avec votre dossier, et c'est vraiment bien fait. Et je crois que comme vous l'aviez constaté, les gens qui viennent sont ravis, et du coup, tout le monde y gagne, y compris les caisses de retraite, en premier lieu évidemment les futurs retraités, mais y compris les caisses de retraite, parce que du coup, on a tous ces échanges qu'on pourrait faire après par la suite. Tout ça est un peu démêlé pour des carrières un peu compliquées, quand on a eu beaucoup d'employeurs, quand on a travaillé au Portugal et en France. C'est vraiment un coup de pouce, ça a toujours beaucoup de succès, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas fait, on est ravis de pouvoir annoncer qu'on va le faire à nouveau.
Voilà, il y a tout un circuit, on commence par la caisse portugaise, après on passe à la retraite, ce que j'appelle la retraite de l'assurance sociale, la retraite de base, après la retraite complémentaire, etc. Et au bout, quand on part, on a un dossier et les choses sont déjà en route. Monsieur Philippe Benvide, je vous remercie, bien entendu, on va être attentif à ce qui va se passer, qui risque de se passer, on espère, au deuxième semestre de 2025. Merci, monsieur Benvide.
Au plaisir d'échanger à nouveau avec vous. Bon dimanche.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Et bon, et maintenant on va laisser les pensions de retraite, laisser une façon de parler, hein. Sans oublier aussi que au niveau du consulat du Portugal, il y a aussi un service qui peut aider justement là-dessus. Il y a même une fonctionnaire qui s'occupe des questions de sécurité sociale et donc etc., etc. La retraite, donc une chose peut marcher avec l'autre. Alors il y a quelque chose qui revient à Paris. Je veux dire, c'est la pyramide des chaussures. Londres. En effet, la 30e édition des permis de chaussures. Elle sera là, son de retour le 21 septembre à Paris et également à Lyon. Et à Paris, ce sera à Place de la République. Avec nous, on a la porte-parole de Handicap International, Madame Hélène Robin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors déjà une bonne nouvelle, le retour des pyramides des chaussures à Paris.
À Paris et à Lyon, et absolument. À Lyon. Là pour une 30e édition.
Voilà, oui. Alors cette 30e édition va se dérouler dans un climat où on dirait que finalement, il y a eu des combats qui ont été gagnés par Handicap International et certains nombre d'autres organisations, mais comme on peut lire dans l'édito du dossier de presse d'Handicap International, les bombardements des civils de points, il est urgent de passer de la parole aux actes.
Absolument. En fait, depuis 30 ans, on lutte contre l'usage d'armes explosives, les mines antipersonnelles, les bombes à sous-munitions, et plus globalement, on lutte pour la protection des civils dans les conflits actuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, dans l'ensemble des conflits, c'est 9 personnes sur 10 qui sont victimes des conflits sont des civils. C'est pas des militaires. C'est des gens comme vous et moi, des enfants qui vont à l'école, des personnes qui vont travailler. Ce sont eux les victimes aujourd'hui majeures de ces conflits. Donc on doit lutter, on doit continuer de lutter. Il y a une déclaration qui a été signée l'année dernière par plus de 80 États. Maintenant, il s'agit de l'appliquer. Et c'est pour ça que c'est une 30e édition. C'est parce que le combat n'est jamais fini. Les textes sont signés, mais on a vu par exemple... L'année dernière, une recrudescence exceptionnelle d'usage d'armes, notamment en Ukraine, mais pas que, d'armes explosives qui tuent et changent des destins malheureusement chaque jour.
Oui, sans oublier les munitions. Et là, je pense à Gaza, par exemple, parce que Gaza, c'est le cas typique de quelque chose qui ne devrait jamais arriver, parce qu'il y a beaucoup de munitions qui n'explosent pas, et après, ce sont les civils, les victimes aussi.
Exactement. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre dans l'usage de ces armes, c'est que c'est des bombes à sous-munitions, c'est-à-dire c'est des bombes qui vont exploser, mais qui vont polluer sur des kilomètres carrés entiers, qui vont lâcher des mini-bombes. Et ces mini-bombes, ce sont les enfants qui sont et les femmes qui sont les premières victimes. Parce que comme l'humain est relativement sordide, en fait, ces sous-munitions sont souvent un petit peu colorées, un petit peu attrayantes, justement pour paralyser des populations, paralyser des environnements et empêcher que la vie existe. Donc c'est sur des décennies. Et c'est absolument intolérable. Donc on lutte contre des pratiques et contre des armes qui sont contraires au droit international humanitaire qui existe.
Mais Madame Robin, entre 2022 et 2023, le nombre, je veux dire, de victimes, je parle de victimes civiles, hein, a bien augmenté sûr. De 130%. Et principalement en raison de l'escalade du conflit d'Israël. Israël qui bombarde et a envahi Gaza, mais après les attentats du Hamas contre la population israélienne. Donc c'est ça, depuis le 7 octobre, on avance déjà le chiffre de plus de 40 000 morts. Mais enfin bon, c'est infernal, mais finalement on peut dire que le monde, à quoi ça sert des lois, à quoi ça sert la résolution des Nations Unies, parce que ça sert donc de conventions, sont pas respecté par certains.
Alors, j'ai envie de vous dire ce qu'on répète souvent à tout le monde, c'est pas parce que aujourd'hui il y a des lois qui interdisent tuer son voisin. Et pourtant, il y a encore des prisons et il y a encore des tribunaux. Et nous, on est là justement pour dire que on doit continuer de lutter pour faire respecter ce droit. Malheureusement, ça existe. Malheureusement, la guerre existe et existera toujours. Mais on a la capacité d'agir au travers de nous, Handicap International, notre présence sur le terrain, mais également notre direction du plaidoyer qui œuvre dans les plus grandes instances internationales toute l'année. Et puis surtout grâce aux citoyens qui se lèvent à nos côtés chaque jour pour dire non, ça ne peut pas durer. Et c'est parce qu'on montre ça au jour qu'on peut lutter contre et qu'on va réussir, sans relâche, on ne lâchera rien, à faire, à terme, respecter ce droit international humanitaire. Mais c'est vraiment pour ça qu'on existe, C'est pour ça qu'on travaille chaque jour et c'est pour ça qu'on a besoin d'être soutenu par l'ensemble des citoyens pour dire on le sait, on le voit, ça ne peut plus durer, faisons appliquer ce droit international humanitaire.
Donc et faisons en sorte que le 21, la pyramide des chaussures soit très grande et ça va se passer, comme j'ai dit au début, à Place République, mais également à la Place de la Croix-Rousse à Lyon, et j'en profite pour saluer nos auditeurs de Lyon. Alors, ça, journée du 21, mais il y a une journée très importante et ça, c'est de sensibilisation des enfants. Alors, donc, il va y avoir l'accueil de groupes scolaires.
En fait, sur Paris et Lyon, on va recevoir plus de 250 élèves qui vont venir suivre des visites guidées. En fait, on leur transmet la façon dont nous agissons aux côtés des populations vulnérables, au travers de démonstrations de déminage, au travers de sessions d'éducation au risque. On montre aussi comment est-ce qu'on intervient dans le cadre des urgences pour répondre aux besoins essentiels des populations. Et puis comment on accompagne les populations sur des décennies pour veiller à leur inclusion, pour qu'on travaille tous pour un monde plus solidaire, plus inclusif, plus respectueux des différences. Et on aime rappeler que notre thème, c'est vraiment le vivre ensemble et la solidarité.
À propos de solidarité, bon, dans cette année dans le programme, il y a quelque chose de très important, c'est parcours au pluriel, en prothèse et en fauteuil roulant.
Ouais. En fait, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'on met les personnes avec des prothèses de démonstration. On propose aux personnes de faire un parcours en prothèse, c'est-à-dire qu'on les met dans la situation de quelqu'un qui, pour la première fois de sa vie, a été amputé, va recevoir ce corps étranger qui est une prothèse et va devoir faire son premier marché, son premier parcours et commencer à envisager un avenir possible malgré l'affectation de son corps. Mais en fait, ce qu'on parle au travers de ce parcours en prothèse, on parle de la capacité à tout un chacun de se projeter après la difficulté, après la douleur, et avec beaucoup d'efforts et tout un tas de personnel accompagnant, professionnel, mais également ce qu'on appelle les aidants. C'est les gens de la famille qui vont permettre à cette personne de se dire « Ok, j'ai perdu un certain nombre de choses psychologiquement, physiquement, mais je peux me projeter dans l'avenir. » Et ce parcours est très édifiant en termes d'expérience parce que on se rend compte que on peut se projeter dans l'avenir malgré la terrifiante réalité de la guerre et des conflits ou des catastrophes naturelles.
D'ailleurs, je suis en train de me rappeler de la situation en Angola, justement, à cause des mines antipersonnelles. Déminage, mais même encore aujourd'hui, 20 ans après la fin de la guerre civile, les gens continuent à souffrir. Alors, une dernière petite question, Madame Hélène Robin, je rappelle, porte-parole d'Handicap International, c'est que les chaussures qu'on emmène, bon, c'est pas perdu pour tout le monde, parce que si elles sont neuves, si elles sont bonnes, elles vont servir et les autres aussi seront recyclées.
Absolument. Mmh. En fait, je me permets, mais ce que je trouve intelligent de la part de notre organisation, c'est d'avoir réussi à allier solidarité internationale avec éco-responsabilité. Donc, toutes les chaussures qui sont amenées, on travaille avec un partenaire qui s'appelle ReFashion, qui est l'organisme de collecte agréé par le gouvernement pour travailler sur la filière de la chaussure et du textile pour les 10 prochaines années. Et en fait, toutes les chaussures sont apportées à des organismes agréés de collecte qui vont, donc soit les chaussures sont en bon état, parce qu'on a beaucoup de travail à faire hein, sur la chaussure, sur le recyclage en général, donc soit les chaussures sont en bon état et elles sont distribuées dans des boutiques solidaires en France, hein, soit la matière, on sait quoi en faire et on peut effectivement la recycler, et la rendre utile pour notre quotidien, comme dans les parcs où il y a des enfants, on sait qu'on sait faire des textures dans ces parcs, ou elles sont utilisées pour de la recherche et développement pour que nous soyons aussi plus éco-responsables tous au quotidien et qu'on construise un avenir qui est meilleur pour nous ici et qui est meilleur pour tout le monde là-bas.
Voilà, et en même temps qu'on soit solidaire avec les victimes, justement, ces bombardements, des mines antipersonnelles, etc., etc. Madame Hélène Robin, je vous remercie. Donc, je rappelle les 30e pyramides des chaussures le 21 septembre à Paris. Ça sera à Place République et à Lyon, Place de la Croix-Rousse. Merci.
Et je me permets, je me permets pour ceux qui ne peuvent pas venir ce jour-là, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on aura des lives en direct, un multiplex avec nos collaborateurs sur le terrain qui parleront de la réalité en Syrie, à Madagascar, à Gaza, et ce sera l'occasion d'avoir, de pouvoir leur poser des questions et d'échanger avec eux, et de se rendre compte que cette réalité, elle nous concerne tous.
Oui, effectivement. Merci, Madame Robin, et à bientôt, merci.
Merci à vous, au revoir.
Et nous, voltamos dentro alguns minutos. Radio Alpha. Estamos aqui ao direto que vai passar por onde? Por Nantes, mas igualmente por Portugal. Isto a propósito de Manifesto, novo regard sur l'esclavage colonial, uma exposição de arte digital com 13 obras numéricas, fruto da colaboração de 22 artistas europeus, entre os quais portugueses, que vai estar patente ao público a partir do dia 19 de setembro em Nantes. Vamos ter connosco, a entrevista foi gravada devido ao precisamente de imperativos profissionais da parte da responsável da Associação Les Anneaux de la Mémoire. Quero-me referir à senhora Bárbara Chiron, que é coordenadora deste projeto. Ouçamos.
Manifeste nouvelle perspective artistique sur les mémoires de la traite transatlantique. Il s'agit d'une exposition d'art digital, mais pas seulement, à partir de 13 œuvres qui ont été créées dans le cadre de ce projet européen. Alors, Madame Bárbara Chiron, vous êtes la coordinatrice de ce projet, il y en a d'autres, mais enfin, alors il faut dire qu'au départ, c'est un projet européen, Europe Créative.
Tout à fait, oui. Manifeste est un projet Europe Créative qui a été fondé, enfin créé, imaginé par 5 partenaires européens, dont les Anneaux de la Mémoire pour une partie seulement de ce projet-là. Mais on est 5 pays à travailler ensemble pour... réussir à créer des œuvres qui parlent de cette thématique assez difficile et des œuvres contemporaines en digital.
Alors justement, mais je pense que cette exposition digitale, il faut le rappeler, c'est partie aussi d'un travail d'un certain nombre d'artistes avec des résidences, dont une qui a eu lieu au Portugal, je crois bien, en 2023. Peut-être nous expliquer un petit peu le travail de ces artistes.
Tout à fait. En fait, le projet donc consistait à accueillir des artistes. On a sélectionné, il a été sélectionné 22 artistes qui ont eu pour objectif de créer 13 œuvres qui vont être présentées la semaine prochaine donc à Nantes. Et pour créer ces œuvres, on a effectivement mis en place un parcours de résidence. Il y a une première résidence qui a eu lieu à Budapest et puis une seconde qui a eu lieu à Lisbonne, comme vous le disiez, en novembre dernier, de novembre 2023. Et c'était l'occasion pour les artistes de pouvoir créer ensemble, d'être dans une dynamique, d'être dans une réflexion, dans une espèce d'ébullition, et puis de les rencontrer, de pouvoir imaginer ensemble ce que serait cette exposition, et puis pour eux d'avoir les outils et le temps pour créer leurs œuvres. Donc c'était vraiment ça, les résidences étaient dédiées à ce temps de création qui est essentiel pour les artistes, et puis aussi à pouvoir échanger, puisqu'on est tous de territoires, de pays différents, à pouvoir échanger sur ces thématiques qui finalement nous touchent un peu différemment, individuellement ou en fonction d'où on vient.
Alors justement, c'est une thématique, de temps en temps, ça revient en surface, je passe l'expression, et finalement, un certain nombre de pays, notamment le Portugal et la France, la Belgique également, c'est des pays qui participent à ce projet, ils ont un passé colonial, et par rapport au Portugal, on a du mal, disons, à assumer ce passé-là, mais justement, quelle est l'ambition et quel est l'objectif, disons, du point de vue thématique de cette exposition?
L'ambition, c'est de comprendre, en tout cas d'essayer, autant que faire se peut, avec nos moyens, d'essayer de raconter aux gens, aux visiteurs qui viendront, aux habitants, aux citoyens, raconter que cette histoire-là, si elle a 400 ans, elle est encore très très contemporaine, puisqu'on a des héritages à tous les niveaux, des héritages culturels, mais aussi des héritages liés au racisme, aux discriminations, qui sont difficiles à porter pour les personnes afrodescendantes et qui sont aussi qui font partie des pays actuellement. Enfin, c'est vraiment d'essayer, le challenge, c'est ça, c'est de donner un point de vue extrêmement contemporain de cette thématique-là. Dire, ben voilà, c'est une histoire qui a 400 ans, certes, une histoire qui a bouleversé l'ensemble des pays du monde, puisqu'elle n'a pas seulement concerné l'Europe, mais elle a aussi entraîné évidemment l'Afrique et les Amériques. Et c'est une histoire qui aujourd'hui encore est très très présente. Et ces artistes-là nous racontent ça à différents niveaux, sur différentes thématiques. Et cette exposition nous permet d'en capter la diversité, la multiplicité de ces héritages. Ça peut être des héritages musicaux, mais ça peut être aussi des héritages liés aux discriminations, des héritages liés à l'écologie, des héritages liés au postcolonialisme. Voilà, il y a énormément d'héritages. Et en fait, tous les jours, on vit dans une société qui est fondée sur cette histoire-là et qui porte ces héritages.
Alors, je pense que la majeure partie des artistes sont des jeunes, relativement très jeunes. Et justement, ils manifestent à partir de l'art digital. Ça, c'est, on peut dire que c'est une conception nouvelle. En tout cas, c'est une autre façon de regarder le passé pour comprendre le présent et voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais ça, je pense que c'est complètement innovateur, votre démarche.
On espère qu'on essaye de faire un pas de côté ou d'essayer d'apporter autre chose ou un nouveau regard, comme le titre de l'exposition. Mmh. Et les arts digitales nous permettent ça, en fait. L'art digital va nous permettre de pouvoir plonger dans des narrations, dans des récits imaginaires, de pouvoir aller dans du sensoriel et vraiment d'aller toucher le cœur des gens, de pouvoir les immerger dans une expérience pour vraiment l'idée c'était ça, c'est de toucher les personnes, les visiteurs à travers ces œuvres d'art, et l'art digital est fabuleux pour ça. C'est-à-dire que les nouvelles technologies nous permettent aux artistes de faire ça.
Alors, nouveau regard sur l'esclavage colonial, ça démarre le 19 septembre, ça se prolonge jusqu'au 6 octobre. Alors, la ville de Nantes, par rapport à la thématique, c'est vraiment symbolique.
Hein. Oui, tout à fait. Nantes, effectivement, a été le premier port de traite en France au XVIIIe siècle. Nantes a une histoire coloniale liée à la traite très importante, et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'héritages dans la ville, et la ville de Nantes souhaite... est très dynamique autour de la valorisation de cette mémoire-là, de la compréhension de cette histoire. Et donc, Nantes était vraiment la ville faite pour accueillir Manifeste.
Madame Barbara Chiron, je vous remercie. Donc, bon vent, c'est le cas de le dire, parce qu'on sera au bord de la mer.
Pas très loin de la mer. On n'est pas tout à fait au bord de la mer. On est dans l'estuaire, sur la Loire, qui a vu partir 1800 bateaux effectivement vers les côtes africaines dans le cadre de la traite. On sera pas très loin de la mer, et on espère que vos auditeurs et auditrices seront nombreux à venir pour visiter l'exposition.
Merci. Alors, une question annexe, est-ce que cette expo, elle va tourner justement dans les 5 pays qui ont participé au projet?
Alors, pour le moment, c'est pas prévu, mais ce qu'on souhaite, c'est que les œuvres puissent continuer leur chemin, peut-être... pas tout ensemble, pas de façon collective, parce que c'est 13 heures, et donc c'est beaucoup de travail pour monter une telle exposition. Mais par contre, on espère effectivement que les œuvres individuellement continueront leur voyage. Certaines seront visibles en Guadeloupe l'année prochaine. On va essayer comme ça aussi de continuer de valoriser ce travail fabuleux qu'ont fourni les 22 artistes. J'espère à Lisbonne.
Merci Madame Chiron, et bon courage pour vous.
Merci à vous.
E precisamente tivemos em Nantes para falar desse projeto Manifeste. É um projeto que em Portugal também foi elaborado em grande parte, isto graças à plataforma O Gerador, que apoiou o desenvolvimento de 7 dos projetos artísticos, precisamente que vão estar patentes e que o público pode ver a partir do dia 19 deste mês de setembro, já para a semana que vem, e até o dia 6 de outubro, este no espaço L'Atelier em Nantes. Ora, precisamente a saber um pouco mais aqui o que é gerador e não só, vamos ter um contacto, espero eu bem, sabem como é que é esta história de tecnologia, com a Clara Amanta da plataforma Gerador, precisamente uma plataforma que trabalha em diversos, digamos, diversas vertentes, dizia eu, entre outras coisas, fazemos jornalismo lento como contraponto de urgência dos tempos que nos envolvem. Há uma revista igualmente do quadrimestral, mas disto nos vai falar Clara Amanta. Clara Amanta, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde. Obrigado
por estar direto connosco. Em instantes, bom, foi gravado porque precisamente Barbara Chiron tinha outras responsabilidades a assumir. Ora, a Geradora rapidamente é uma plataforma, digamos, jornalismo, educação, cultura, resumidamente pode ser isso?
Sim, somos uma plataforma de jornalismo, cultura e educação sediada em Portugal.
Mas um bocadinho mais, porque vocês têm a olhar, aliás, quando vamos às redes sociais, há um certo número de coisas, temas atuais, que é importante, onde parece que vocês, a nível do jornalismo, vocês dizem, fazemos jornalismo lento, como contraponto da urgência. Ora, eu como jornalista sei o que isso significa, é que somos obrigados a reagir, a fazer coisas imediatamente, e não demos tempo para refletir, e precisamente a vossa revista quadrimestral, e não só, as vossas redes sociais permitem esse recuo relativamente àquilo que se passa?
Sim, esse tem sido um dos nossos principais focos, procurarmos debruçarmos sobre temas com alguma profundidade. Claro que, naturalmente, o jornalismo mais urgente e das notícias do dia-a-dia é muito importante, mas nós, na nossa estrutura, o que nos faz mais sentido é focarmos em temas que para nós sejam relevantes e que sejam relevantes para a missão do Gerador, que é tentar contribuir para uma sociedade mais criativa, mais participativa, e com mais espírito crítico. E, portanto, para nós o que tem feito sentido é, ao longo do nosso trabalho, procurarmos temas que sentimos que são relevantes para os nossos públicos e para a sociedade e fazermos uma investigação duradoura, calma e profunda, tentando procurar informação em várias fontes, muitas vezes também ir ouvir vozes que normalmente não são chamadas, ou então procurar histórias de pessoas que às vezes é muito importante ouvir os especialistas, e também estamos sempre a tentar contar com a sua opinião, mas às vezes também gostamos de nos focar no que é que se passa realmente na vida das pessoas. E então este foco no jornalismo lento permite-nos esta abordagem.
Aliás, bom, por exemplo, a última edição da revista, revista Gerador 43, é o número 43, Abuso do Poder no Ensino Superior. Bom, este é, digamos, é o principal tema, mas vocês abordam neste número 43 a pobreza em Portugal entre números crescentes e realidades encobertas. Abuso do poder do ensino superior, voltamos a ele, as múltiplas dimensões de um problema estrutural. Acessibilidade do web, apenas 13% das páginas da administração pública estão conforme à lei. Ora, se vamos a este terceiro artigo, este terceiro tema, bom, dá para refletir quando sabemos que está tudo digitalizado atualmente.
Sim, é verdade, mas mesmo assim o que essa reportagem procura abordar é como há uma série de ciências na forma como as coisas estão digitalizadas e na forma como as plataformas funcionam e que muitas vezes acabam por não ser acessíveis para todas as pessoas. Portanto, os temas que nós procuramos explorar têm sempre a ver um bocadinho com estas questões de direitos, de possibilidades das pessoas poderem usufruir ao máximo das coisas a que têm direito, no fundo, e focamos muito em questões de desigualdade e de discriminação e esse tipo de temas que acreditamos que são importantes e que nem sempre têm o espaço devido no meio mediático.
E a nível cultural, vocês têm uma intervenção nesse aspecto igualmente, podia-nos dar alguns detalhes, precisamente, a nível da cultura, a vossa intervenção?
Sim, claro. O Gerador até surgiu em 2014 e era inicialmente, continua a ser uma associação cultural, sem fins lucrativos, mas inicialmente o seu principal foco era mesmo a cultura e as artes. Entretanto, fomos abrindo um bocadinho mais o leque e chegámos a esta parte do jornalismo e da educação. mas desde a sua origem que a missão do gerador tem sido muito a de tornar a cultura mais acessível, menos elitista, desmistificar um bocadinho esta ideia de que a cultura é só a ópera, que também é, mas tentar trazer outras formas de expressão que também merecem essa validação e ao mesmo tempo mostrar às pessoas que há cultura para todos os gostos e para todos.
Uhum.
E portanto, desde o início, mesmo a nossa revista no início também era muito focada nessa dimensão, que nós procuramos fazer eventos que juntem artistas emergentes com artistas mais tradicionais, que sejam acessíveis ao público, muitas vezes com custos reduzidos ou até inexistentes. E então, atualmente temos tido também uma grande cimeira, que é a Oeiras de Ignição Gerador, onde reunimos profissionais da cultura precisamente para pensar no futuro.
Uhum.
E esse é um evento que temos feito todos os anos, até o momento, e continuamos a fazer outros eventos em que juntamos concertos, exposições, ou mesmo o Manifest, que é o projeto que nos traz aqui hoje, que também está muito relacionado com as artes e com a cultura e com esta ideia de as valorizar enquanto ferramentas importantes para a sociedade.
Mas ao mesmo tempo de valorização, vocês têm um trabalho também sobre aquilo que se chama o país do interior. Ora, há quem diga que, bom, Portugal é Lisboa, Porto, eventualmente um bocadinho Coimbra, mas enfim, é a Orla Atlântica. E vocês estão atentos precisamente àquilo que se passa no interior do país, isso a todos os níveis, a nível social, mas igualmente a nível económico e por aí fora.
Sim, também faz parte da nossa missão, apesar de estarmos sediados em Lisboa, a nossa ideia sempre foi abordar o país como um todo. E fomos percebendo, também à medida que fomos crescendo, que havia muita coisa que não tinha o tratamento devido por não se passar em Lisboa e no Porto. E também temos jornalistas e outras pessoas da equipa que não estão nem em Lisboa nem no Porto, e isso também faz com que queiramos também dar um tratamento justo a todas as regiões do país. Nem sempre é possível, até porque às vezes tem mais custos porque estamos sediados em Lisboa, mas temos tentado ter essa atenção, porque de facto o país não são só estas duas cidades e o país funciona como um todo, e às vezes funcionaria melhor até se prestasse mais atenção ao que é que se passa nas outras regiões. E por isso fizemos até um festival que se chama Descobre o Teu Interior, que decorreu em várias zonas do país e que procurava precisamente materializar um bocadinho esta nossa visão e levar as pessoas a conhecer vários sítios em Portugal, através da cultura, de debates, de música e de uma apresentação de coisas que são provavelmente consideradas tradicionais naqueles sítios e outras que não são vistas e que não são associadas normalmente a outras regiões que acha que só acontece em Lisboa ou no Porto, e depois afinal vai saber e há muita coisa a acontecer pelo país fora.
Com efeito. Bom, chama-se a província, é um termo depreciativo para mim, mas enfim. Claramente, voltemos a este projeto Manifest. A vossa plataforma, continuo a chamar-lhe plataforma, faz parte de cinco associações ou cinco plataformas que organizam este projeto. É um projeto europeu. Ora, para já, o título: Novas Perspectivas Artísticas sobre as Memórias do Comércio Transatlântico de Pessoas Que podemos dizer que é um tema que em Portugal continua a ser ainda um pouco quente, escaldante mesmo, porque, bom, Portugal tem um passado colonial e por aí fora, de maneira que é um tema que é extremamente interessante mesmo para os portugueses.
É verdade, sim. É um tema que em Portugal ou não se fala de todo, ou geralmente quando se fala é precisamente um tema que gera muita controvérsia, mais até do que seria de estudar, quando na verdade a história está tão clara e o passado colonial de Portugal é tão evidente. Mas foi precisamente por isso que também foi importante para o gerador juntar-se a este projeto. Nós já tínhamos tido um projeto mais pequeno e apenas interno nosso, chamado Lusotropicalismo, que pretendia precisamente desmistificar a ideia de que o colonialismo português foi melhor, de mais benigno, mais paciente e benevolente do que os outros. E então, como já tínhamos esse interesse na questão, já estávamos a tentar desenvolver este tema através das nossas próprias iniciativas, quando nos convidaram para este projeto ficámos muito satisfeitos, porque de facto vimos que era uma oportunidade de trazer também este tema para Portugal e dar-lhe até uma dimensão também transnacional, porque acabamos por ter artistas de muitos sítios e também de Portugal, e trazer este tema um bocadinho à discussão.
Ora, Clara, eu tenho à minha frente um texto da historiadora Aurora Almada e Santos, que data do dia 13 de abril. Aliás, a Aurora Almada e Santos vai estar em Nantes também para participar de uma mesa redonda já no início da semana que vem. O artigo dela é A Ausência de Locais Memoriais em Portugal, diz ela, cito: apenas recentemente, em 2010, o Museu do Mercado de Escravos em Lagos, o primeiro monumento a destacar a participação do país no comércio de povos escravizados, se tornou realidade. Isto é uma historiadora que fala, não sou eu.
Em muitos países europeus, embora continue a ser um tópico difícil, mas não tanto como é em Portugal. A questão do facto de não haver um memorial às vítimas da escravatura, por exemplo, que está para ser construído há muito tempo em Lisboa, cujo projeto não tem avançado, é muito gritante e muito sintomático daquilo que se passa na sociedade portuguesa no que toca à falta de reflexão que existe sobre o passado colonial.
Enfim, bom, é claramente, muito obrigado. Ora, relembro, é responsável da Academia Geradora, salvo erro da minha parte, não é?
Exatamente.
Agora, rapidamente, em 30 segundos, o que é que faz essa Academia?
A Academia é o projeto do Gerador que está mais ligado à educação e, portanto, nós temos uma série de cursos de várias áreas, ligados também à área da cultura, mas não só, ao jornalismo também, em que tentamos dar às pessoas ferramentas para desenvolverem determinadas competências que nem sempre estão tão disponíveis na educação formal. E também fazemos muitas vezes estudos e pequenas investigações acerca destes temas todos que tivemos aqui a falar.
Obrigado, Clara. Mas evidentemente que vamos seguir de par e perto aquilo que vocês estão a fazer. E lembro as redes sociais, vocês fazem gerador.eu e têm acesso a um certo número de coisas extraordinárias. São debates em Portugal, mas que nos interessam igualmente aqui. Muito obrigado, Clara. E agora, evidentemente,
muito
a partir
obrigada,
de 19,
eu.
Podemos ir até não dá para ver essa exposição num local simbólico, na medida em que houveram dezenas de milhares de escravos que saíram de lá. Obrigado.
Exatamente. Obrigado. Muito obrigada.
E nós voltaremos dentro de alguns instantes.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
E voltamos aqui ao Direto Passagem de Nível da vossa companhia até às 14 horas, neste domingo, dia 15 de setembro. Vou-vos anunciar outra data, 6 de outubro de 2024, este ano, décima edição da Corrida Marcha Solidária, organizada pela Santa Casa de Misericórdia de Paris, para angariar fundos, a fim de ajudar precisamente os portugueses que vivem aqui em situação de precariedade. A madrinha, mais uma vez, vai ser Rosa Mota, a grande Rosa Mota, a que aproveitou precisamente a deixa para convidar as inscrições. Ouçamos a Rosa Mota.
Olá a todos queridos amigos. No próximo dia 6 de outubro vai-se realizar mais uma vez aquela grande festa de convívio que é a Corrida da Santa Casa. Nós contamos com muita gente, inscrevam-se. O São Pedro já me prometeu que vai estar bom tempo e temos que dar apoio a todos aqueles que precisam. E se conseguirmos fazer isso através do desporto e da atividade física, é ótimo. Conto convosco, um beijinho do coração.
Rosa Mota, relembro a décima edição da Corrida Marcha Solidária, inscrições abertas através das redes sociais. É verdade, tudo passa por aí atualmente e, como já é hábito, esta corrida decorre no Domaine de la Cour-Rolland, Jouy-en-Josas, no departamento 78. Também dá para aqueles que querem, em vez de correr, podem andar, sem esquecer que vai ser também o ideal para levar piquenique e por aí fora, passar um dia num parque, sem esquecer que também José Cruz vai estar presente, e quando José Cruz está presente tudo pode acontecer, meus amigos já sabem como é que ele é. Bom, e já agora, bom, está na hora do almoço, e é o caso de dizer, talvez falemos um bocadinho de quê? da gastronomia, nem mais nem menos, e nada melhor do que uma visita ao Porto. Não sou eu que a fez, que a fiz, aliás, não fui eu. Foi a Silvia da Silva, que desta feita nos faz visitar um certo número de sítios gastronómicos, sítios e não só, como estamos na hora do almoço, até calha muito bem, e até mesmo, porque não, da sobremesa. Este vem a propósito do livro Porto, Recette et lieu emblématique, que é publicado pela Mango Edition. Trata-se de um extrato de uma entrevista que realizámos alguns mesinhos atrás, mas está plenamente de atualidade, na medida em que no próximo dia 21, Silvia da Silva vai apresentar o livro, acompanhado, evidentemente, por Como Tivemos Portugueses, na Livraria Batignolles, em Paris 17. Já iremos com a morada exata, mas vamos voltar precisamente, ou vamos revisitar o Porto. Vu l'heure, Sylvia Silva, on va commencer par les desserts.
Je vois la petite touche.
Voilà, oui.
Alors... la petite dent sucrée de Arthur Silva.
Ah oui, je suis pas le seul. Manuel qui est de l'autre côté de la vitre, lui aussi. Bon, alors cette fois-ci, bon, c'est pas le dernier dont on avait parlé. C'était vous avez fait un périple du nord au sud du Portugal, et là on avait vraiment, bon, on a vu les plats typiques de chaque région, la porcelaine, tout un tas de choses. Alors là, vous êtes resté entre guillemets à Porto. Porto, bon, pour les gens du Nord, c'est la ville la plus belle. Et mais enfin, mais à Porto, j'ai l'impression que vous avez fait des découvertes. Déjà, qu'est-ce que vous avez découvert à Porto?
Alors, en fait, ce que j'ai découvert à Porto, c'est que... Alors, moi, je suis de Lisboète, donc forcément, Porto passe en second plan. Mais justement, elle est assez intrigante parce que cette ville a une forte personnalité. Elle a toujours été... elle a toujours beaucoup compté dans le cœur des Portugais. Et aussi des Français, puisque la moitié des Portugais qui vivent en France viennent de cette région, de cette ville. Donc il y a un lien très très fort, très marqué. Et cette ville plus intimiste, qu'il faut un peu découvrir, plutôt mille visages, mais qui ne se révèle pas comme ça, qui avait quand même cette réputation de ville laborieuse, le travail, les travailleurs, travailleuses, ben d'un coup elle s'est métamorphosée. Et c'est vrai qu'il y a deux villes au Portugal, il y a Lisbonne, il y a Porto, les deux capitales, je dirais, du pays. Les gens ont beaucoup, beaucoup visité Lisbonne et aujourd'hui, ils sont en train de se pencher sur cette ville qui a un patrimoine et un potentiel absolument dingue entre la mer et la vallée du Douro, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Évidemment, elle va attirer beaucoup de monde. Elle m'a attiré moi aussi. Et ce que j'aime avant tout dans cette ville, c'est sa sincérité, sa générosité, parce que ça, on le retrouve dans l'assiette, mais aussi dans l'hospitalité des gens. C'est les gens du Nord. L'accueil est absolument incroyable.
Extraordinaire. Alors, il y a la cuisine portugaise, mais quelque chose que j'adore, moi, la cuisine des petits couches.
La cuisine des petits couches. Alors, ça, c'est intéressant parce que, par exemple, alors, en Espagne, on appelait ça les tapas. Au Portugal, c'est vraiment ouche petit, c'est la cuisine de comptoir. C'est-à-dire qu'on va effectivement dans un café, une cafétéria, un salon de thé. On peut manger salé, sucré au comptoir, comme ça, un peu sur le pouce. Au Portugal, on mange pas la street food, tout ça, c'est pas ça. On aime les lieux de vie sociale, etc. Donc, on reste au comptoir ou à table pour manger, même si on mange assez vite. Donc, la street food, pour l'instant, c'est pas le sujet, du tout. Et alors, à Porto, on mange des choses très différentes en cuisine de petit. On a des petites boules de bacalhau, bolas de bacalhau, qui sont pas du tout de la même forme qu'à Lisbonne. On va trouver au Caldo Verde, qui est vraiment la soupe populaire, donc ce chou émincé avec du chorizo. Ça, c'est vraiment la soupe des balles populaires. Si les Portugais m'entendent, ils savent très bien de quoi on parle. Et puis, il y a aussi pas mal de sandwichs chauds. Alors là, moi, j'ai craqué complètement pour Sainte-Pernille de la Casa Guedes. Bon, je fais de la publicité parce qu'en fait, c'est une institution. Et que quand on va à Casa Guedes, eh bien, on se retrouve face à un des deux frères qui, depuis 40 ans, prépare les mêmes sandwichs avec autant d'amour. C'est absolument incroyable. C'est une viande, c'est le jambon, en fait, qui est rôti. On y met un peu de jus dans un pain bien chaud, une petite tranche de fromage à mantegade et le tour est joué. Et ça coûte 2,50 €. Qui dit mieux?
Mais Sylvie, justement, alors ces bonnes adresses, il y en a un certain nombre dans votre livre. Sache que c'est également des commerces, par exemple de conserves, ces choses extraordinaires. Bon, on pourrait continuer comme ça. Mais jusqu'à quand, Casa Guetsch, par exemple, peut garder sa... ce qu'elle est, ça, quelque chose de véritable, de profond, oui, de savoureux, parce que c'est en danger, Casa Guetsch et d'autres sont en danger, non?
Oui, bien sûr. En fait, tous les établissements, les institutions font de la résistance malgré tout, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie gentrification des villes. Donc, on normalise tout ça, on va manger effectivement des choses qui ne sont pas du tout portugaises, mais la Casa Guetsch, il y a la maison mère, il y a un deuxième établissement, un troisième établissement. Ils ont tout à fait le talent pour recevoir à la fois les habitués du quartier qui viennent tous les midis et qui évitent les touristes, la horde de touristes qui arrivent plus tard. Et donc, ils accueillent aussi les étrangers sans rien changer. Et en fait, c'est ça leur force, c'est que à aucun moment ils vont changer le prix, ils vont changer la qualité, ils vont changer la quantité. Et ces gens-là, bah, ils ont tout compris parce qu'ils savent très bien qu'ils détiennent un trésor, c'est que c'est eux l'âme de Porto, c'est rien d'autre. Et en fait, plus ça va aller et plus les gens vont rechercher la qualité, mais aussi la simplicité. Et ce qui fait que cette ville, elle est authentique. Donc je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter des maisons comme Casa Guetsch, etc., ou les autres institutions comme le Café Guarani, Brasileiro et tout ça.
Sylvie da Silva, je vous remercie. Donc Porto, recette et lieu emblématique, Mango édition des Super Photos, et de quoi aussi de faire lire recette, c'est bien expliqué, sans oublier qu'à la fin, il y a un carnet d'adresses à Porto. Bon, il faut en parler, mais pas trop, il faut sauvegarder tous ces lieux-là.
Oui, bien sauvegarder les lieux, les très jolis lieux, y aller quand même parce qu'ils en ont besoin, mais vraiment respecter la ville et les habitants.
Nem menos, Sylvie da Silva, que vai estar no próximo dia 21, ou seja, no próximo sábado, onde na Livraria de Batignolles se encontra o número 48, Rue des Moines, em Paris 17. E a apresentação do livro, de fazer dedicatórias e por aí fora, sem esquecer que vai ser acompanhado com comes e bebes à portuguesa. Vamos falar agora de um tema completamente diferente. Falemos da Gala da Capa Magellan, nem mais nem menos, isto porque estão abertas já as inscrições para os respectivos prémios. Precisamente temos connosco o Lourdes Abreu. Lourdes Abreu, boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco, de maneira que estão abertas as inscrições para os prémios. Ora, eu que se começo a detalhar os prémios todos, bom, vamos a eles, o montante é de 1.500 €, há aqui o referir, a atribuição de prémios em diferentes categorias, melhor aluno do ensino secundário, melhor estudante, melhor projeto associativo, melhor jovem empreendedor, melhor iniciativa de cidadania e melhor revelação musical artística, nem mais nem menos, de maneira que vocês não fazem isto por menos, pois não?
Não, mas eu só devo sublinhar que são efetivamente os prémios financeiros de 1.500 €, exceto o prémio da melhor revelação artística. Esse não é financeiro, mas é um prémio, claro, que será dado na nossa gala que está de regresso este ano.
Ora, então, bom, não vamos fazer o balanço destes prémios, porque há antes esta parte que a Capa Magellan organiza a gala, mas a importância, porque vocês, com o decorrer do tempo, adquiriram uma experiência, isto tem aberto portas a muita gente, não tem estes prémios?
Sim, para nós é mesmo muito importante premiar, valorizar esta comunidade lusodescendente, luso de maneira geral, que está presente em Paris, e sim, para nós os prémios são essa maneira que temos de voltar a dar um bocadinho à comunidade. E lá está, as candidaturas estão abertas, já recebemos muitas candidaturas, mas ficamos abertos porque lá está, temos de dar mais oportunidades a esses jovens, e menos jovens, claro, de ter esta ajuda financeira para projetos, seja eles profissionais ou não profissionais. Para os estudantes, por exemplo, pode ser uma ajuda que garante, por exemplo, um regresso a Portugal para os estudos e outras coisas.
Ora, finalmente isto está tudo ligado às atividades da Cabo Magelo, ou se vamos por aí afora?
Sim, é tudo. Quer dizer, nós trabalhamos com a nossa rede e é tudo para apoiar os jovens e os menos jovens. Lá está outra vez, tenho que sublinhar que nós somos uma associação de jovens, mas não somos tão abertos para os jovens e acompanhamos, sim, desde mais pequeninos, por exemplo, com a nossa revista Cap Mag Júnior, prémios, acompanhamos umas pessoas em várias idades. Estamos também a acompanhar, agora tivemos por acaso a primeira fase de candidaturas ao ensino superior português que foi concluída, temos a segunda agora, com a cota do 7%. Vamos estar presentes em outubro no Salão Partir Étudiar Étranger para sensibilizar a essa oportunidade que é aberta aos jovens lusodescendentes, que é regressar ao país para estudar no ensino superior português. A gala, lá está, é mais uma vez um prolongamento do que fazemos, mas estes minutos que eu tenho agora não seriam necessários para fazer a promoção de tudo o que fazemos na Cap Magelão, mas o mais importante é sim trabalharmos. Nós somos uma associação de lusodescendentes para os lusodescendentes e acompanhamos em tudo o que tenha a ver com esse aspecto.
E a propósito de continuar os estudos superiores em Portugal, há uma cota de 7%. Que está reservada aos jovens lusodescendentes, precisamente nas universidades portuguesas, salvo erro da minha parte, que é 7%, e infelizmente a maior parte das vezes ainda há muitas vagas por preencher, não é?
Sim, é assim. Na primeira vaga são 7% e depois houve um alargamento de 3,5% à segunda vaga. E é assim, nós fazemos o nosso máximo para promover e fazer o acompanhamento, porque não basta só dizer aos jovens que eles têm esse direito, também é necessário acompanhar. É um processo que não é assim muito complicado, mas são muitos papéis a adquirir, muitas autorizações, muitas equivalências a adquirir, a pedir, seja às instituições francesas ou às instituições portuguesas, em escolas aqui em Portugal, e nós então fazemos esse acompanhamento personalizado para que cada ano, e já tivemos este ano um aumento no preenchimento da primeira vaga, vimos nos últimos anos que há um aumento, e então o nosso trabalho é cada vez trabalhar mais para que essa cota seja completamente preenchida.
E para isso, bom, nada melhor que ir os dias 12 e 13 de outubro, precisamente no Salon Partir Étudier à l'étranger, pavilhão 7.2, na Porte de Versailles. Bom, mas voltemos a estes prémios de gala da Cap Magelão, que j'appelle prémios da soirée de gala. Pois bem, muito bem. E há, por exemplo, um prémio que eu adoro, aliás, o prémio Cap Magelão para a melhor iniciativa de cidadania. Este prémio de valor de 1.500 euros destina-se a um cidadão ativo que se destaca por uma iniciativa cidadã lusófona. Um cidadão lusófono, ele também tem que assumir a sua cidadania aqui em França.
Exatamente, este prémio é muito importante. Nós somos uma associação e sempre achámos que era muito importante valorizar o trabalho que é feito dentro da comunidade, porque lá está, o português sai do país, mas está sempre ligado à comunidade e está para voltar a dar à comunidade. E isso tem que se valorizar, e isso tem que se premiar, e isso é o objetivo então desse prémio, como muitos outros.
Ora, há outro prémio também, que é do melhor estudante, destinado a estudantes que se destacam por um aprofundamento sobre uma problemática ligada à lusofonia. Aí é intimamente ligada a outra questão, bom, não é a Cap Magelão que pode resolver, que é a situação das cátedras em português aqui em França, na medida em que os departamentos, como se chamava antigamente aqui em França, de letras, nomeadamente o português, está aos poucos, não digas a aparecer, mas com bastantes dificuldades, e com a reforma do BAC e a reforma do Liceu aqui, o português aqui está-se a tornar numa língua rara, de maneira que é importante que este prémio seja bastante divulgado e que seja valorizado também o trabalho dos estudantes, não é?
Sim, nós, lá está, do nosso lado fazemos o nosso máximo para promover, não se perder essa ligação à língua. A nossa revista Júnior, o Cap Mag Júnior, tem esse objetivo, tem esse lema, é uma revista completamente escrita em português para incentivar as crianças a partir dos 8 anos a terem a ligação com a língua portuguesa, porque sabemos perfeitamente que estudar o português agora na França é um luxo. E nós há uma coisa que não percebemos, que é, hoje em dia, aqui em Portugal, há 250 mil vagas para aprender o francês. E quando se compara com as vagas que existem na França para se aprender o português, há uma diferença. 30 mil pessoas a aprender o português, isso não se percebe, não se entende, quando a comunidade luso-descendente é tão importante em França. Eu não estou só a falar da comunidade portuguesa, há uma comunidade também brasileira, angolana, cabo-verdiana, e essas pessoas também querem continuar a ligação com o português, querem aprender o português, que as crianças aprendem o português. E a França, sendo um país membro da comunidade dos países de língua portuguesa, deveria também, de certo aspecto, também promover essa língua. Atualmente tudo cai no governo português, nas instituições portuguesas, que têm meios limitados, porque lá está, a França é só um dos países onde eles podem promover a língua portuguesa, tem muitos outros países onde têm que a promover, e do nosso lado também achamos que a França deveria agir mais e vamos sempre lutar a luta para a promoção da língua portuguesa. É um dos eixos no quais lutamos há anos e haveremos sempre de lutar, porque lá está, para nós a aprendizagem do português é uma força, é a valorização da dupla cultura, é a valorização da nossa cultura do país de origem, e é uma coisa muito positiva. O português é um passaporte para todos os continentes e é uma riqueza. Hoje em dia aprender o português não é só ter a ligação com a língua dos pais, dos avós, é uma força também para o emprego, e por isso tem que se lutar cada vez mais para que seja valorizada e que tenha o lugar que merece.
Aliás, a Luz de Abreu, em Portugal, há dezenas de milhares de jovens luso-descendentes que estão a trabalhar para empresas francesas. Muita gente esquece isso.
Exatamente, eu própria posso falar.
Em nome próprio, pois.
eu regressei a Portugal e estou a trabalhar numa empresa francesa, onde, lá está, o meu conhecimento da língua francesa é valorizado. No meu caso, a ter regressado ao país e estar agora a trabalhar numa empresa francesa. Mas... para além disso, e eu cada vez mais vejo também expats, que eu estou aqui em contacto com muitos expats, que é uma coisa muito engraçada.
Expat talvez mereça uma explicação, eu sei daqui o que a Luz está a falar. Expatrié, é isso?
Exatamente, mas eu ia dizer que é muito engraçado, é que o francês, quando vem para Portugal, não é considerado imigrante, é um expatrié. Mas o português, quando sai do país e que vai para a França, por exemplo, já é imigrante. Essa frase também, mas isso é próprio do francês. Mas o que eu quero dizer é que estão em contato com muitos imigrantes franceses que estão aqui em Portugal e que também agora, quando se vêm, vêm com as crianças e querem que as crianças aprendam o português. Já não há aquela coisa de vir para Portugal só há alguns anos e não se integrar, não fazer aquele processo de integração, a aprendizagem da língua e isso tudo. E é interessante ver então que eles também mudaram de maneira a pensar e agora valorizam, quando chegam ao nosso país, o português. E eu queria que essa valorização que eles fazem aqui em Portugal se transformasse numa valorização no próprio país, ou seja, que eles também valorizassem o português na França, mas isso...
Não, aliás, há acordos entre Portugal e a França que não são respeitados. A Comissão Mista já há anos que não se reúne. Eu faço sempre essas perguntas aos deputados e aos ministros e ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República que passam por aqui. Porque é uma coisa engraçada, é que os expats, como se costuma dizer, os imigrantes franceses que estão em Portugal, imigrantes com I, uma coisa é certa, é que não há lugar para todos no Liceu Charles Pierre. E há que ter também dinheiro para poder escrever os seus filhos no Liceu Charles Pierre, que é em Lisboa, para aqueles que não sabem. Ora, há um prémio bastante importante que tem a ver com as associações. A Capa Magellan, bom, é uma base, também são as associações e não só. De maneira que isso é um capítulo importante, porque as associações levaram um grande arrombo, passa a expressão, com a Covid e por aí afora. De maneira que é importante também que a Capa Magellan valorize esses projetos associativos lusófonos. Não é?
Funcionam graças a financiamentos da maioria públicos ou parcerias com entidades privadas. Mas, ou seja, uma associação não faz dinheiro. O lucro vai tudo em ações da própria associação. Quem é voluntário não é voluntário pelo dinheiro, faz pela paixão. E é importante ajudar essas associações que cada vez mais têm dificuldade a arranjar financiamento. Cada vez mais há associações, cada vez mais têm que se dividir aquelas ajudas públicas, e para nós então é muito importante retribuir e dar a essas associações para que possam viver, para que possam propor cada vez mais ações de qualidade. O quanto é difícil para uma associação viver e propor ações de qualidade sem os meios financeiros, e esse prémio é desse modo feito para permitir às associações de viverem e darem à comunidade.
Ora, portanto, lembro, para se candidatar aos prémios que serão entregues depois durante a noite de gala, as inscrições até o dia 30 de setembro, ou como quem diz, no final deste mês, encontram a ficha de candidatura através das redes sociais, vão a Cap Magellan, onde têm acesso a isso, podem preencher a ficha de candidatura em Microsoft Word, ou então a partir do PDF, nem mais nem menos. Ora, há uma coisa, não há data ainda definitiva, li no sítio qualquer que normalmente a gala da Cap Magellan deve se realizar entre finais de novembro e princípios de dezembro, não é?
O que eu posso dizer é que em breve haverá uma data publicada, também uma programação. A novidade deste ano é que a gala vai se realizar no Anfiteatro Richelieu da Universidade La Sorbonne e vai ter vai ser uma coisa muito, muito nova, muito interativa, com um quiz. Vamos, claro, falar da Revolução do 25 de Abril, este ano festejamos os 50 anos, mas também dos 500 anos do nascimento do nosso Luís de Camões. É assim, vai ser uma noite tradicional com esses prémios, mas uma noite muito nova com estas coisas, estas novidades que vamos realizar, e em breve haverá muitas notícias, mas para isso vão ter que seguir as nossas... as redes para estar a par de todas as novidades.
E nós também vamos, evidentemente, dar essa informação. Normalmente são esperados 600 convidados para esta noite. Bom, enfim, teremos tempo ainda para falar nisso. Lourdes Abreu, muito obrigado. Presidenta da CCPF, que reside em Portugal. Aí está, talvez, a lusofonia. Aí está, precisamente, aqui o que é a comunidade portuguesa. O que são hoje os lusodescendentes. Mas, enfim, Lourdes Abreu, obrigadíssimo e até uma próxima, então.
Obrigada, até breve.
Muito obrigado. E nós vamos fazer uma pequenina respiração a cores. Rádio Alfa. Forêt d'Orly. Bruno Bertoise, bonjour.
Bonjour Arthur et bonjour à tous.
Alors, forêt à Lisbonne, bon, c'est un jeu de mots. Il s'agit de, bon, je veux dire, un hommage à l'occasion du centenaire de Gabriel de Forêt. Alors, je lis, hein, Gabriel Forêt ne s'est jamais rendu en visite au Portugal. Pourtant, ce concert nous invite à découvrir avec quel bonheur les couleurs de la musique moderne, notamment celle du maître français, a pu émerveiller les compositeurs portugais jusqu'à aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que c'est un peu amusant puisque justement en préambule, Forêt n'est jamais venu à Lisbonne. Enfin, Gabriel Forêt, comme c'est le grand maître de la musique française au début du XXe siècle, il est un peu le, j'irais le passeur entre l'époque romantique et l'époque moderne dans le, la musique française. Et c'est donc un maître qui était respecté par tous, d'autant plus que qu'il fait ce pont entre les musiciens tels que je dirais Gounod, Berlioz, jusqu'à Maurice Ravel, Claude Debussy. Donc c'était vraiment un maître qui a influencé beaucoup un certain nombre de compositeurs qui se sont aussi rapprochés depuis le Portugal. Je pense à Luís Costa, je pense à Armando José Fernandes, je pense par exemple à Antonio Fragoso, à tous ces compositeurs qui se sont beaucoup retrouvés dans l'esthétique moderne, qui était l'esthétique du début du XXe siècle. Et donc, on pourrait dire que d'une certaine manière, il a laissé ses traces parmi les compositeurs portugais de cette époque. Alors, donc c'est autour de cette image de Forêt dont on fête, finalement, on célèbre, on commémore, on va dire, le centième anniversaire de sa disparition en 1924. Donc c'est une année là qui se finit encore, qui est toujours une année sous le signe de Gabriel Forêt, grand compositeur. Donc j'ai voulu commander des œuvres aussi à certains compositeurs contemporains portugais pour rendre hommage à Forêt. Il y aura notamment la création d'une pièce pour piano et violon de Miguel Amaral.
Justement, mais Bruno, on va revenir un peu plus tard, hein, parce que justement, D'accord. Alors la guitare portugaise à la musique classique, comme j'ai l'habitude de dire. Alors, mais il s'agit d'un concert. Commençons par là. J'aurais dû commencer par là, d'ailleurs. Oui. Donc, Bruno Beltoise et João Costa Ferreira piano et Léo Beltoise violon. Donc, c'est un concert à l'église Sainte-Mary, 76 rue de la Verrerie à Paris 4e, justement, entrée libre qui commence à 16h. Alors, les compositeurs, Luís Costa, on a Hermano José Fernandes, Gabriel de Forêt, Miguel Amaral, on en parlera dans quelques instants, et Armando de Polignac. Donc, je pense qu'il y a un lien avec, c'est-à-dire Gabriel de Forêt, qu'on ne voyait pas, disons, c'est la trame, disons, de ce concert.
Oui, c'est la trame de ce concert, en essayant de tirer des fils esthétiques de compositeurs qui soient été un peu contemporains ou tout juste après lui, comme l'était donc Luís Costa, qui pourtant était contemporain de Forêt, hein, même s'il était plus jeune, et d'Armando José Fernandes. Et je pense que ce sont des musiciens qui sont vraiment été très très impressionnés par la musique française moderne. Donc pour moi, beaucoup de leurs œuvres ont cette esthétique moderne et cette couleur harmonique qui nous fait rappeler justement les prémices de la modernité, symbolisée par Forêt. Et puis voilà, donc ça c'est le fil conducteur, c'est Forêt. On jouera aussi la berceuse de Forêt pour piano et violon. Comme je vous le disais un peu en préambule, peut-être un peu trop rapidement, mais effectivement on a commandé une œuvre à un compositeur contemporain de manière à lui aussi pouvoir être inspiré par Forêt.
Voilà, donc ça va être une création, élogie Gabriel Forêt. Alors, parlons de Miguel Amaral. Il a commencé à faire son premier concert, et il avait 6 ans. Bon, oui. Ni plus ni moins. Alors, c'est quelqu'un qui a travaillé énormément avec beaucoup, beaucoup de musiciens. Je parle de, par exemple, de Pedro Caldeira Cabral, etc., Carlos Pérez. Bon, c'est-à-dire, il a pas travaillé avec eux, mais il présente des œuvres. Surtout, c'est la guitare portugaise. Il a fait des études de piano, etc., de composition, improvisation. Donc, c'est un jeune, parce qu'il est né en 1982, Miguel Amaral. Donc, du fado, comme j'ai dit, un hommage, mais élogie, une éloge, si je peux le traduire en français, à Gabriel Forêt. Miguel Amaral, finalement, et Gabriel Forêt, je pense que vous avez dû lui parler, donc vous avez demandé une création. Comment est-ce qu'il voit justement la musique et la composition, les compositions de Gabriel Fauré?
Ah, il était, lorsque je lui ai fait connaître une œuvre d'ailleurs qui est très connue de Fauré, qui s'appelle Élégie pour violoncelle et piano, et c'est vrai que les couleurs harmoniques et la façon dont ça se passe, c'est un compositeur très, c'est un compositeur contemporain, mais qui garde beaucoup ses racines portugaises liées au fado, parce que vous l'avez dit, il est un très grand guitariste de guitare portugaise, et il a donc accompagné beaucoup de gens, et lorsqu'il compose, il sait allier à la fois, je dirais, la tradition harmonique et la tradition du chant, et de l'accompagnement du fado, de son fado, vraiment très actif, toujours, il continue à beaucoup à jouer, mais maintenant qu'il compose, il cherche des langages harmoniques qui peuvent à la fois s'inspirer de la musique moderne française et à la fois du fado. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir cette racine portugaise présente par un jeune compositeur qui est à la fois un féru et très grand connaisseur de la musique de fado. Donc en fait, on n'a pas un fado, mais c'est presque comme un fado qui aurait pu être composé par Gabriel Fauré. C'est assez amusant.
Et d'ailleurs, Miguel Amaral, bon, il travaille beaucoup avec Mário Leginha. Quand on parle de Mário Leginha, bon, on est tout près, plutôt près du jazz que d'autre chose avec Mário Leginha.
Oui, c'est vrai, mais Miguel, bien qu'il ait une formation classique, a beaucoup pratiqué l'improvisation et il fait également du jazz. Donc ils ont un ensemble avec Mário Leginha plus contrebasse qui est très très bon. C'est ça le côté complet d'un musicien aujourd'hui, c'est d'être capable d'improviser, d'être capable de jouer le répertoire, d'être capable de reprendre des grands standards, de Paredes par exemple à la guitare, et donc de faire à la fois sa propre musique et d'être aussi capable d'interpréter les plus grandes chansons et les plus grandes œuvres portugaises du répertoire. Donc il est complet, et il est très polyvalent, et je trouve qu'il a fait quelque chose de particulièrement intéressant. C'est pas facile comme challenge, parce qu'il fallait quand même se mettre en face de Fauré. Il adore cette manière d'écrire de Fauré, la façon de faire chanter et de moduler de faire les passages harmoniques particulièrement modernes. Donc je trouve que c'était une personne très sensible pour ça. Je suis content qu'il nous ait fait cette belle pièce.
Voilà, donc Élégie à Gabriel Fauré. Alors, une question indiscrète, Bruno Bertoise, est-ce que ce concert de dimanche 22 à l'église Sainte-Mary, qui se trouve dans le 4e arrondissement de Paris, à partir de 16h à entrée libre, est-ce que ça va être enregistré, parce qu'il s'agit d'une création
Oui, alors en fait, bien sûr que ça va être enregistré. On va également le redonner au théâtre municipal de Covilhã le 28 septembre, et aussi à Antena Deutsch au mois de novembre. Donc ces pièces seront jouées, enregistrées plusieurs fois. La création portugaise a déjà eu lieu cet été au festival Porto Piano Fest, qui a été filmé et enregistré. Mais là, effectivement, on va également garder une trace de cette interprétation à Paris, de la première française, on va dire, de la pièce. Donc oui, bien sûr, ça va être enregistré.
Voilà, mais il vaut mieux être à présent le 22 septembre à partir de 16h à l'église Sainte-Mary, 76 rue de la Verrerie, Paris 4e, parce qu'en même temps, on pourra écouter en direct et en live, comme on dit en français, Bruno Bertoise et Jean Costefrère au piano, et Léo Bertoise au violon, et justement Luís Costa, sonatina. Donc c'est un thème que vous allez jouer.
Oui, tout à fait. On va faire ouvrir le concert avec cette belle sonatine pour piano et violon de Luís Costa, que nous aimons beaucoup.
Voilà. Bon, donc pour voir jouer en live, c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Bon, j'ai des disques, mais enfin, il y a autre chose. Il y a le contact. Il y a le contact, c'est et ça, une autre émotion. Et quand on assiste à un concert, c'est autre chose de regarder des musiciens, regarder des instruments et ouvrir.
C'est une très belle église. Hein, c'est une très belle église, tout près de Beaubourg, et là, le public est très près des musiciens. C'est très intéressant au niveau de la disposition, le rapport public-musicien.
Voilà, l'église dit une acoustique merveilleuse.
Oui, tout à fait. C'est un bel endroit.
Voilà. Merci Bruno Bertoise, à très bientôt.
Vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Et justement, Luís Costa, sonatina. Bom, estamos aqui ao Direto a Passagem Nível neste domingo, dia 15 de setembro. Memórias da Ditadura, Sociedade, Imigração e Resistência. É um livro que foi publicado, isto é a partir do espólio de fotografias de Fernando Mariano Cardeira. Fernando Mariano Cardeira, muito boa tarde.
Muito boa tarde. Desculpe não ter atendido anteriormente, mas estava longe do telemóvel.
São coisas que acontecem, como diria o outro. Portanto, a apresentação do livro, essa terá lugar no próximo dia 21, na Casa de Portugal, na Residência André de Gouveia. Isto a partir das 17 horas e 30 minutos. Ora, quando se fala de memórias da ditadura, aliás, basta ver a capa do livro. O livro este foi redigido por Daniel Bastos, e com o prefácio do historiador José Pacheco Pereira. Precisamente são páginas do exílio, páginas daqueles que disseram não à guerra colonial, desertores, outros refratários, mas que são páginas da história de Portugal, mas não só.
Sim, sim, não só. Eu posso fazer, digamos, um apanhado das fotografias, que são cerca de 150 que estão inseridas no livro, que foram selecionadas, eu tenho mais, pelo Daniel Bastos, o homem que teve a ideia, que me propôs a ideia e que a realizou com a minha contribuição, com certeza, também escrevi um texto. O José Pacheco Pereira, meu amigo, fez o favor de escrever um pequeno prefácio e o Daniel Bastos fez também o seu enquadramento. Portanto, eu estou muito contente com este livro, vejo as minhas fotografias publicadas, acho que o livro ficou muito, muito bom, e terei muito gosto em ir à Casa de Portugal, aliás, uma casa que eu conheço bem, porque já fui residente durante 3 anos na Casa de Portugal, na Residência André Gouveia.
Com efeito, percebe o seu percurso, bom, militante antifascista, militar desertor, imigrante, exilado político, e conheceu um certo número de países, mas eu faria um destaque, não agora para aquilo que era a Casa de Portugal aqui, a Residência André de Gouveia,
mas
no seu exílio no norte da Europa.
Sim.
Porque aí era importante, não sei, é o meu olhar, pelo menos o olhar aqui em França.
Sim, com certeza,
que havia uma maior solidariedade relativamente aos desertores.
Sim, sim, muito, muito grande, uma grande solidariedade. Aliás, uma mentalidade, uma política nórdica que desapareceu atualmente, porque continuam sempre a haver refugiados de outros, felizmente não do nosso país. Eu fui muito bem, eu e os meus camaradas de deserção e camaradas da Academia Militar, da Tropa, fomos muito bem recebidos, extraordinariamente bem recebidos, diria eu. Estivemos um ano, eu estive um ano em Uppsala, depois vim mais para o sul, para o pé de Malmo, para Lund, foi lá que nasceu a minha primeira filha, e só temos, digamos, boas recordações dos 4 anos que passámos, eu e a minha mulher também, que foi depois, se juntou a mim, um mês depois de eu ter desertado em setembro de 1970,
exatamente. Aliás, quer dizer, vocês vieram acompanhados com um aparelho fotográfico. Vocês até têm fotografias quando passam a fronteira e para fora, de maneira que, digamos, vocês aproveitaram, entre aspas, não é nada evidente, e fizeram uma reportagem fotográfica.
Fizemos uma pequena reportagem, fiz eu, embora algumas delas eu pedi ao passador, ao próprio passador, que não se portou nada mal, fez boas fotografias, embora eu tenha escolhido o enquadramento, é que eu apareço também em algumas delas, mas eu levava a minha máquina fotográfica, que eu sempre gostei e continuo a gostar muito de fazer fotografia, não sou um amador, gosto muito de fazer fotografia e as coisas normalmente saem bem. E, portanto, nesse dia não podia dispensar a minha máquina fotográfica, não é? Ora, eu sabia que ia acontecer, nós sabíamos que ia acontecer história, que nós, a nossa deserção, a nossa decisão de recusar a guerra colonial e de o dizer publicamente, que é isso que é mais importante, porque houve milhares de pessoas, felizmente, que recusaram a guerra colonial, refratários sobretudo, mas também muitos desertores. Mas normalmente eles chegavam à França, ou à Suécia, ou à Alemanha, faziam a sua vida e não falavam politicamente sobre o evento, sobre a sua deserção. Mas nós fizemos-lo. Portanto, nós quando partimos já tínhamos uma ideia. Nós éramos militares, tínhamos entre 27 e 30 anos, o grupo ao todo acaba por ser uma dezena de oficiais de carreira, oficiais da Academia Militar. Nós até 1969 éramos oficiais da Academia Militar e ao mesmo tempo alunos do Instituto Superior Técnico de Engenharia. Decidimos então, foi depois, de, aliás, de uma viagem a Paris de fim de curso, que a maior parte das pessoas, alunos da Academia Militar, decidiram, digamos, romper com a carreira militar. Não estavam de acordo, não queriam ser mobilizados, não queriam ir à guerra, recusavam a política, que havia muita gente que recusava a política, não só no país, havia muita gente organizada que recusava a política Salazar e Caetano, mas dentro da Academia Militar, no seio do Exército, havia muitos oficiais e cadetes que eram já contra a guerra nesta altura, a partir de, sobretudo, de 65, 66.
Não, é bastante importante, e é importante este livro também porque, bom, estamos a festejar os 50 anos do 25 de Abril.
Claro.
Há um grupo parlamentar de extrema-direita neonazi na Assembleia da República, dá para refletir, claro, onde é que nós vamos, e sobretudo há que referir igualmente que o facto de ser desertor e refratário hoje ainda para um certo número de pessoas, isto é considerado uma traição, entre aspas.
Claro,
não?
Claro.
É importante. Fernando, mas...
Sim, eu sempre vivi com isso, repare, mas o impacto da nossa deserção junto ao exército é muito grande, porque o próprio ministro, o general Sabiano Rebelo, era ministro da Defesa e ministro do Exército. Ele fez um discurso em dezembro de 1970, portanto, 3 meses depois de nós desertarmos, 2 meses depois do grupo de 3 que foi para a Bélgica. Ele fez um discurso em que nos chamava, com todas as letras, traidores à pátria. Portanto, nós já sabemos que é assim desde o primeiro dia, não é? E quando fizemos, e quando tomamos a nossa decisão, sabemos que era assim. Até mesmo algumas pessoas sofreram essas acusações de familiares, imagino.
Fernando...
O vício de familiares é mais duro. Não era uma decisão fácil, sabe?
Não, mas, Fernando, eu fui vítima disso também. Tive um tio que me tratou todos os nomes e que durante mais de 20 anos nem sequer queria falar comigo, tanto melhor para ele. E para mim, sobretudo para mim.
Sim, sim.
Fernando Mariano
Carteiro. Quem desertou, recusou a guerra, sabe, tem que viver com isso. Mas não, nós não nos podemos calar, não é? Porque calar é que não.
Não, não, perfeitamente. E a solidariedade também com os povos que lutavam pela sua independência,
claro,
pela sua libertação. Fernando Mariano de Cardeira, muito obrigado. Damos encontro, dando o próximo sábado, dia 21, a partir das 17h30, Casa de Portugal André de Gouveia, na cidade da Universidade Universitária de Paris. O Fernando vai revisitar a casa. Houveram obras, entretanto, muitas coisas mudaram.
Sim, eu já lá estive em 2019, numa iniciativa muito boa. E vou voltar com muito gosto sempre à Casa de Portugal.
Fernando, obrigado. E para terminar a emissão, precisamente não é por acaso que vamos ouvir Luís Cília, não a cantar, mas a assobiar. Tem uma ligação com o Salto, na medida em que é a música do Salto, um filme de 1967, Luís Cília, que aliás, dentro em breve vai ser publicada uma antologia completa da música, acompanhada com um livro, e já agora um grande abraço para alguém que também estava na origem disso, que é o José Moças. Fernando, muito obrigado.
Muito obrigado pelo vosso contacto e pelo vosso interesse. Muito obrigado, espero ver-vos na Casa de Portugal na sexta-feira, dia 21.
Sábado, dia 21.
Ah, sábado, dia 21. Não, eu é que vou sexta-feira. Desculpe, estou a dizer as pessoas em erro. Sábado, dia 21, 17h, 17h30, eu às 17 já lá estarei até.
Muito obrigado, um abraço e boa viagem então aqui.
Muito obrigado pelo vosso interesse.
Obrigado. Um abraço. E obrigado igualmente ao Manuel Alexandre e espero bem, até para a semana.